Bon, avant de commencer, je voulais vous communiquer que l'un des intervenants à ce séminaire, de manière très active, Alberto Lucarelli, a été élu aux dernières élections à Naples et il est devenu adjoint maire au bien commun. Hein. Donc, c'est une tâche extrêmement difficile qui va... Ouais. Et j'espère, que l'année prochaine, on pourra l'avoir, parmi nous. Voilà, fermer cette parenthèse, j'en viens alors à une tentative, d'une rapide, synthèse des points saliants, essentiellement sur le plan économique. Dès le début de ce séminaire, nous avons fait, de manière presque intuitive, un choix théorique et méthodologique original, extrêmement important. Je fais référence au choix de ne pas utiliser la notion des biens communs, mais de parler du commun au majuscule et avec un grand singulier. Voilà. Malgré des innombrables difficultés, et malgré un énorme travail à faire, je crois que la pertinence de ces choix initiaux a été en grande partie, étayée, par le travail que nous avons mené dans les différentes séances de ces séminaires. Et pour essayer d'étayer et de démontrer, cette affirmation, je vais en particulier ici insister, sur les apports, mais aussi sur les principales limites qui, à nos yeux, révèlent la théorie des biens communs et des biens collectifs. Pour montrer ensuite la nécessité de développer une approche alternative. Alors, j'en viens donc à une revue synthétique de ces approches des biens communs, des biens collectifs, et du débat qui s'est développé autour de cela, tout en essayant de rappeler les principaux concepts, en particulier pour la partie d'entre nous qui n'est pas économiste de formation, et en soulignant les principaux points des discussions qui ont été soulevés dans les débats. Alors, comme l'avait bien mis en avant Christian dans son intervention, c'est déjà au début des années 50 que Samuelson, dans le cadre de l'approche économique standard, développe l'idée selon laquelle certains biens échappent à la régulation du marché. Et cela en raison de leurs caractéristiques intrinsèques. Alors, pour ce faire, Samuelson va distinguer deux grandes catégories de biens. Les biens privés ordinaires, représentant selon lui à l'époque la majorité des biens, caractérisés par leur caractère rival, c'est-à-dire que la consommation de la part de quelqu'un empêche la consommation d'une autre, et surtout par la possibilité d'une exclusion par les prix. Dans l'économique, à la fin des années 70, l'économique c'est les manuels d'économie sur lesquels se sont formés des dizaines d'économistes à l'époque, Samuelson va ajouter à ces deux caractéristiques un troisième élément riche d'implications. Des implications qui vont, selon moi, au-delà même, de la pensée initiale de l'auteur. À savoir, les biens privés, pour être considérés pleinement en tant que tels, ne doivent pas générer des effets externes. Pourquoi riche d'implications? Je vais éventuellement y revenir, car déjà l'époque fordiste, mais toujours davantage dans le capitalisme contemporain. Quasiment la production et la consommation d'aucun bien peut être considérée sans des effets importants effets externes. Puis, à côté des biens de consommation privés ordinaires, rivaux et excluables, comme je viens de le dire, Samuelson identifie une autre catégorie de biens, ce qu'il appelle les public goods, notion qui a été traduite en français soit par les termes des biens publics, soit par les termes des biens collectifs, et ces nuances ne sont pas secondaires, on pourrait éventuellement y revenir. Alors, pour Samuelson, les biens publics ou collectifs représentent une catégorie résiduelle des biens, dont la production ne peut pas être assurée de manière efficace par les marchés en raison, encore une fois, de deux caractéristiques intrinsèques à ces biens, deux caractéristiques opposées à celles des biens privés, à savoir leur caractère non rival, hein, c'est-à-dire ils ne sont non rivaux car la consommation de la part des uns n'empêche pas, disons, celle des autres, et leur caractère non excluable, hein, c'est-à-dire il est impossible d'exclure quelqu'un, en particulier par les prix, de l'utilisation de ces biens. Alors, comme vous le savez, les exemples les plus souvent donnés, disons, de ces catégories de biens sont celles de l'éclairage public ou encore celui du phare, hein, phare qui par ailleurs avait été, disons, l'objet, disons, des passages très beaux, hein, de la part de Victor Hugo, disons, qui exaltait cette forme, disons, du commun. Ou encore, hein, la recherche et la connaissance codifiée, telle que par exemple a été théorisée vers le milieu des années 60 par Arrow. Alors, notons donc que ces deux caractéristiques s'ajoute un troisième élément, hein, pour définir ce que la théorie économique standard appelle les biens publics purs, à savoir l'absence d'effet d'encombrement et surtout l'obligation d'usage, hein, comme pour la justice ou pour la défense. Finalement, cette approche implique deux thèses complémentaires étroitement liées, hein, même si souvent elles ne sont pas explicitées, et qu'il s'agit, selon nous, de remettre radicalement en discussion. La première thèse est que le commun ne correspondrait qu'à un échec ou à une défaillance du marché. La deuxième est qu'il existerait des lois économiques, historiques et quasiment naturelles, permettant de définir la sphère respective du marchand et du marchand, ou encore d'une gestion régie par la logique du marché ou par celle de l'État, ou à une échelle plus locale, par des formes autres de régulation collective. Je dis cela parce que, comme on va le voir plus tard, l'économie politique du commun d'Ostrom, hein, du moins sur un plan formel, reste en grande partie dépendante de cette démarche fondée sur une typologie des biens. Alors, deux remarques mi semblent enfin utiles pour conclure sur Samuelson. La première est la suivante. Si l'on prend à la lettre et on pousse dernière conséquence ces considérations sur les effets externes concernant les biens privés, on pourrait dire que cette théorie fait déjà échec sur cette tentative de délimiter les sphères du marchand et du non-marchand, et que quasiment l'ensemble des biens pourrait être considéré comme des biens publics. Deuxièmement, cette approche exprime bien, disons, l'esprit de son époque, hein, c'est-à-dire celle d'une logique de croissance, disons, fordiste et keynésien, comme le montre bien le fait qu'on parle du public, on parle du marché, mais on parle point d'autres formes de propriété, disons, comme le commun. Alors, dans quelle mesure les analyses suivantes seront à même de combler ces lacunes? Alors, comme nous le savons, c'est Ardin, hein, ce terrible personnage, qui malgré sa médiocrité intellectuelle, revient en place, disons, des choix pour relancer, disons, les débats. Alors, la contribution d'Ardin se caractérise en effet par un simplisme estrême, hein, et toute une série d'approximations, aussi bien sur le plan théorique et historique que sur le plan de la définition même du concept de commun. Alors, et comme le montre l'importance même qu'il donne à un ouvrage publié en 1833, hein, un ouvrage d'un certain Lloyd. Par ailleurs, c'est sa seule référence, disons, pour parler des pâturages, hein, disons, qui c'est un oscur économiste malthusien de cette époque, disons, qui se bat contre les lois sur les pauvres. L'article de Ardin a en réalité deux sorts professeurs. C'est dans cette optique que Ardin reprend donc la polémique des classiques contre les lois sur les pauvres, en l'occurrence, je pense en particulier les décrets de Spinamland, parce que l'ouvrage de Lloyd sort en 1833, en les prolongeant dans une attaque aux institutions de l'État-providence, hein, que nous retrouvons dans les textes. La tragédie des communs, en somme, signifie pour Ardin aussi et surtout la nécessité de remettre en cause les institutions collectives qui permettent une socialisation des revenus et d'atténuer la contrainte monétaire au rapport salariale. La deuxième cible d'Ardin, celle la plus connue, disons, en tout cas consiste, elle, à la condamnation de toute forme de gestion collective considérée de facto comme inefficace et archaïque et destinée inéluctablement à être dépassée par l'expansion de la sphère du marché. Selon Ardin, en effet, c'est important de le rappeler, lorsqu'une ressource est libre et non limitée par des droits de propriété privée, les comportements individuels de maximisation et la pression de la population, car c'est malthusien, conduisent inéluctablement à la surexploitation et à l'épuisement de cette ressource. Alors, les exemples évoqués par Ardin sont celles des terres communales dans l'Angleterre antérieure aux enclosures, ou encore à l'époque contemporaine, cite celles des parcs naturels ou les zones de pêche extraterritoriales non réglementées. Alors, notons que l'analyse d'Ardin repose sur toute une série incroyable, disons, d'erreurs et d'approximations théoriques et historiques, plus ou moins délibérées. Des approximations grossières qui seulement en partie seront remises ensuite en question par la nouvelle théorie des biens communs de Ostrom. Alors, en résumant à l'extrême, il me semble important de souligner, disons, un certain nombre de points à ces propos. Premier point, l'adhésion à un individualisme méthodologique primaire et caricatural, comme l'a bien montré l'intervention de Mattei, c'est-à-dire un individualisme méthodologique fondé sulla concezione di un individuo egoista, maximizzatore, non cooperatif, dont la puissance destructrice serait multipliée par la croissance, disons, de la population, et cela sans aucune vérification historique. Alors, deuxième point, les communs et les terres communales sont assimilés de facto par Ardin a una terra nullius, c'est-à-dire a une zone avec un accès libre. Insomma, selon Ardin, confond délibérément ou par ignorance propriété collective et absence de propriété et de toute autre forme de régulation. Alors, c'est sur cette base qu'Ardin peut développer sa thèse selon laquelle les paysans auraient conduit un surpâturage et la surexploitation des communs, et c'est jusqu'à rendre nécessaire, dans un deuxième temps, les enclosures. Or, rien n'est plus faux, disons, que cette interprétation sur le plan factuel, et ça m'étonne que très rare, que jamais, disons, elle a été vraiment, à ma connaissance, mise en avant. Tout historien sérieux sait en effet que c'est exactement l'inverse, disons, qui s'est passé, à savoir la première grande vague d'enclosures qui si sviluppa entre le 15e e le 16e siècle, repose justement sulla volonté des anciens seigneurs et de nouvelle bourgeoisie montante de convertir les terres communales en pâturage. Et cela en relation à la forte demande, disons, de laine provenant de l'industrie lainière qui est en train de se développer en Hollande. Alors, insomma, l'introduction massive des moutons, le surpâturage, disons, des terres, le recul des cultures vivrières, ainsi que l'expulsion des paysans, sont la conséquence et non la cause de la clôture et de la privatisation des terres, comme le rappelait par ailleurs déjà Thomas More, quand il disait ces pays dans lesquels les moutons mangent les hommes. Alors, de même, comme le rappelle Wood, dans un essai important consacré aux origines agraires du capitalisme, l'une des justifications officielles données par les maîtres des enclosures, disons, de ces mouvements de privatisation, était justement la nécessité de supprimer les anciennes règles coutumières qui empêchaient une exploitation maximale des terres. Alors, le quatrième point et limite d'Ardin est justement lié à l'évacuation totale des rapports sociaux de production et donc des institutions qui encadrent les comportements individuels et collectifs. En effet, les communautés paysannes qui vivaient et réglaient l'usage des communaux étaient caractérisées, comme on le sait, par des rapports sociaux de production précapitalistes. Dans ce cadre, l'échange même des marchandises obéissait, pour le dire, disons, avec Marx, à la logique marchandise, argent, marchandise. Logique où la finalité de la production et la capacité de l'appropriation demeurent limitées quasiment par définition par la capacité de la consommation et par le besoin de préserver les conditions de la satisfaction des besoins. En réalité donc, la logique de prédation et de surexploitation des communs dont parle Ardan ne peut provenir, pour le dire toujours avec Marx, que de la logique argent-marchandise-argent. C'est-à-dire où le but est l'accumulation du capital et du profit, et ce but peut se détacher de la sphère des besoins traditionnels, et cela jusqu'à détruire les conditions qui en permettaient la préservation des communs. Ah, et cela me semble valable non seulement pour le comment parle Ardine, mais aussi pour toute une autre série d'exemples, comme par exemple celui de la surexploitation des zones de pêche côtière. Alors, comme on le sait, malgré ou peut-être grâce à ces approximations, les thèses d'Ardine vont servir comme support scientifique aux politiques de privatisation du FMI, disons, et de la Banque mondiale, et s'intégrer, disons, de manière plus générale dans la grande vague, disons, dell'ideologie néolibérale e proprietaria che troverà ensuite, disons, des élaborations théoriques bien plus sophistiquées dans la théorie de l'agence ou, insomma, dans les différentes théories, disons, prônant la création de la valeur pour l'actionnaire. Allora, c'est dans ce contexte historique, hein, je pense, qu'il faut juger de la nouvelle économie politique des biens communs, hein, de Ostrom et de Hesse, et cela tant pour ce qui concerne la critique de l'approche de Ardine, che la sua disante, che il développement d'une nouvelle théorie des biens communs. Allora, de ce point de vue, il n'est sans doute pas inutile, disons, de rappeler que les travaux de Ostrom s'inscrit bien que de manière originale dans la démarche de Douglas North. Alors, en effet, bon, son premier ouvrage, disons, il sort, disons, dans sa collection. Bon, et il fait en plus explicitement référence à North. Et donc à l'importance que celui-ci attribue à l'existence des droits de propriété clairement définis. Alors, comme l'a bien montré encore une fois Christian, Ostrom apporte à la théorie du commun une série de contributions principales. Alors, la première est démontrée par une série, disons, d'exemples, disons, monographiques, que c'est que le nom, les biens communs traditionnels, peuvent être gérés de manière efficace, même de manière plus efficace que par la propriété privée. Et cela sur la base d'une pratique de délibération permanente et d'une série, disons, de règles qui permettent l'institution della proprietà comune sulla base dei droits, e je dirais dell'encastrement, disons, des droits clairement définis. Allora, deuxièmement, tout en restant pleinement fidèle à une approche en termes d'individualisme méthodologique, Ostrom oppose la vision en quelque sorte obscène, disons, de Ardine, une conception autre, disons, de l'individu. Une conception de l'individu animée par des comportements et des motivations altruistes et coopératives, ce qui va permettre l'action collective et l'institution des règles assurant la propriété commune. Et là nous aurons un pas en avant considérable si Ostrom s'est poussé véritablement, en partie il l'a fait, mais après on va voir, disons, che c'est pas aussi clair, disons, sur ce point, si s'est poussé véritablement jusqu'au point d'affirmer, disons, que le commun est pure construction sociale indépendamment des caractéristiques intrinsèques au bien. Alors, cependant, en effet, trois limites principales, disons, étroitement liées, continuent à notre sens à caractériser, disons, la sua approche. La première, comme chez Ardine, même si d'une manière différente, est la non prise en compte des rapports sociaux de production, et donc de l'histoire dans laquelle s'inscrivent les règles institutionnelles. Alors, sur cette base, en quelque sorte, on pourrait dire que le passage de la tragédie de commun au miracle ostromien de commun, restait fondé sur un jugement purement moral, c'est-à-dire sur un jugement portant sur la bonne ou la mauvaise nature des comportements humains. De même, rien ne dit chez Ostrom sur la place des communs dans la dynamique conflictuelle des rapports capital-travail concernant la résistance à la transformation de la force de travail en marchandise fictive, comme le dirait, disons, Napoléon. Nous avons là un point, à mon sens, essentiel, car comme l'a montré aussi le débat avec Philippe Agren, l'atténuation de la contrainte économique au rapport salarial constitue l'une des conditions clés pour développer des formes de coopération non marchande, et donc l'institution du commun. La deuxième limite consiste en ce que les configurations de commun étudiées par Ostrom correspondent pour l'essentiel à des expériences menées à une échelle microsociale et communautaire, et cela sans une véritable réflexion sur les conditions de leur extension à une échelle plus vaste et générale. La troisième limite se trouve enfin dans le fait que sur cette base, Ostrom est finalement mené à rester fidèle à la démarche de la théorie des biens publics. C'est ainsi que dans l'introduction, disons, au dernier ouvrage, disons, que l'a co-dirigé, disons, avec S, disons, sur la connaissance, Ostrom et S font explicitement référence au travail pionnier de Samuelson, pour établir à leur tour une classification des différents types de biens communs. Classification établie sur la base des caractéristiques intrinsèques à ces biens. Il en résulte un tableau typologique dans lequel nous pouvons reconnaître leurs différents strates. Au sommet se trouveraient les biens communs non rivales, non rivaux et non excluables, comme la connaissance, par exemple, correspondant au bien public ou collectif de Samuelson. Au deuxième étage, nous avons les biens communs rivaux et non excluables, correspondant, par exemple, au bien commun traditionnel de la première Ostrom. Enfin, même s'ils sont esclus du tableau, nous avons, bien évidemment, les biens privés, c'est-à-dire à la fois rivaux et excluables. Finalement, nous avons là, dans ce tableau, le risque de rétablir une approche statique et comparative des lignes de démarcation quasiment naturelles entre différentes formes de gestion de la propriété et des biens communs. Plus encore, dans ce tableau, les communs risquent d'apparaître comme une simple enclave plutôt che come una veritable alternativa all'État e au marché. Or, le limite e le contraddizioni contenute dans cette approche nous sont montrées, disons, chaque fois par la dynamique du capitalisme. Il suffit, par exemple, de songer à la manière dont toute une série de biens communs de premier niveau, c'est-à-dire à la fois non rivaux et non excluables, font en revanche, disons, l'objet, disons, des politiques de privatisation, comme c'est le cas, disons, pour la connaissance. De même, la seule véritable différence de nature entre les biens privés et les biens communs traditionnels, c'est-à-dire rivaux mais non excluables, tient aux règles institutionnelles qui, même si à une échelle locale, ont permis de construire socialement les communs. Alors, en réalité, et ce point est essentiel, je dirais donc qu'aucune valeur d'usage, aucun bien, pour ses caractéristiques intrinsèques, n'est destiné à appartenir à la sphère marchande ou non marchande, ou en forme de gestion et de propriété relevant de l'État, de la propriété privée ou encore des communs. En conclusion, c'est donc la décision politique de ne pas exclure et de garantir l'accès à un ensemble de biens et de services qui constitue l'élément directement déterminant, comme par ailleurs on le sait dans ces ébauches d'institutions du commun que sont les institutions du welfare, comme la santé et l'éducation. Ce ne sont pas les caractéristiques intrinsèques de ces biens, mais c'est le résultat d'un long processus de conflits, disons, qui a permis de garantir dans certains limites les caractères universels de l'accès à ces biens et services. Alors, finalement, pour aller au-delà d'une approche statique et fondée sur la typologie des marchandises, la question qui se pose alors la suivante. Comment penser la montée en puissance de la problématique des communs et son institution, non comme une enclave, mais comme les piliers de notre mode dominant d'organisation sociale de la production? La réponse à ces questions, comme l'ont suggéré, disons, nombre d'interventions, parmi lesquelles celle de Agrin et celle de Marazzi, disons, par exemple, est qu'il faut les penser, ces communs, à partir du grand absent, des anciennes et des nouvelles théories des biens communs, à savoir, à partir du travail, et des mutations de celui-ci qui lui donne de plus en plus la possibilité d'instituer le commun comme produit d'une coopération sociale et productive potentiellement de plus en plus autonome du capitale et capable d'autodéterminer aussi bien l'organisation de la production que la finalité sociale de la production. Alors, sur ces bases, pour conclure, je me bornerai à soulever, disons, à évoquer quelques pistes problématiques de recherche sur lesquelles pourrait porter, disons, le développement du séminaire l'année prochaine. Un premier axe de recherche consiste à développer les bases d'une approche dynamique et historique du commun et de son émergence, capable de fournire un'alternative véritable all'approccio statica, normativa e tipologica dell'economia politica dei biens communs collectifs. Allora, pour ce faire, je pense qu'une piste de recherche estrêmement féconde serait de rattacher la montée en puissance du commun aux mutations du rapport capital-travail qui caractérise le passage du capitalisme industriel à un capitalisme fondé sur l'immatériel et la connaissance, tout en déterminant une crise de plus en plus puissante de la rationalité économique du capitale incarnée par la loi de la valeur. Autre point important, à mon sens, si l'on ne veut pas réduire la question des communs à une série d'enclaves, cohabitant de manière plus ou moins importante aux marges de l'organisation capitaliste de la production, notre réflexion ne peut pas échapper à des questions plus globales. Premièrement, repenser, comme ça m'est déjà arrivé, disons, de l'évoquer, la question de la coordination sociale de la production et donc la question de la planification et de la régulation de la monnaie, pensée comme le commun des communs. Deuxièmement, toujours à ce niveau macroéconomique, on devrait se demander quelles sont les formes de la répartition qui pourrait le mieux correspondre au commun comme mode de production, comme mode d'organisation sociale de la production, tout en favorisant son développement. Alors, de ce point de vue, je pense que la thématique d'un revenu social garanti pourrait jouer un rôle important, et cela d'un double point de vue. D'une part, en les pensant comme un revenu primaire, c'est-à-dire issu directement de la production, correspondant à la répartition commune, même si hors mesure, d'une richesse produite en commun. D'autre part, en les considérant comme une institution qui, en atténuant la contrainte économique au rapport salariale, favoriserait en même temps le développement des formes de production non marchande et l'institution du commun.